Est un livre de jeune homme et de très jeune homme. On sent en le lisant que l'enfant de 18 ans qui écrivait en Islam dans un accès de fièvre en 1821 n'avait encore aucune expérience des hommes, aucune expérience des idées, et qu'il cherchait à deviner tout cela. C'est ainsi que Victor Hugo, quelques 10 ans plus tard, dans la préface de l'édition de 1833, qualifie le jeune auteur qu'il a été. Ainsi que l'auteur confirmé, parvenu au fait de la célébrité, excuse les maladresses de son passé, avec un brin de condescendance. Ce que possédait le jeune homme, c'était l'humour. Un humour à la mode de l'époque, voire si l'orage. De complots et de sauvagerie sans nom. C'était les souffles puissants de la révolte contre l'académisme, le banal, le triste, le sérieux, un romantisme échevelé, livide, qui plonge ses racines dans les méandres de l'âme allemande et dans les sombres souterrains du roman noir anglais. En Islande est une sorte de pot-pourri, mais un pot-pourri de génie, où s'agglutinent pêle-mêle des éléments propres à alimenter la polémique. Et on ne peut attribuer au hasard le fait que ce roman soit devenu le phare, la référence de la génération romantique de 1830. L'outrance était le mode d'expression privilégié d'un certain mal de vivre. L'amour se vivait comme une exaltation hors du commun. Le mal prenait la forme d'un petit bonhomme métriqué, profiteur et charognard, sanglé dans un costume noir. La couleur, le chevaleresque, le moyenâgeux, le baroque, l'excès, apparaissaient comme autant de remises en cause de l'ordre établi. C'est dans ce contexte qu'il faut entendre en Islande. C'est une polyphonie somptueuse, riche de formes et de couleurs, de situations hors du commun, fiévreuse dans l'action, dramatique, intensive.
Yeah! Histoire d'Islande de Victor Hugo. Adaptation Dominique Vaïche. Réalisation Jean-Pierre Collat. Avec Gérard Darieux en Islande, Pierre Venec Ordener, Albert Medina Spiagudry, Bruno Balpe Toric Belfast, Jean-Paul Sisyphe Poël.
Voilà où conduit l'amour. Kit Sterson ne serait pas étendu là, sur cette grande pierre noire, comme une étoile de mer oubliée par la marée, si elle n'avait songé qu'à reflouer la barque ou à raccommoder les filets de son père.
Ouais.
Pauvre vieux camarade.
Ouais.
Que Saint-Usuf, patron des pêcheurs, le console dans son affliction.
Et son fiancé, un bien beau jeune homme, ma foi, lui tiendrait pas compagnie sur le lit d'à côté s'il s'était contenté de lui faire l'amour, s'il n'était pas parti chercher fortune dans ces maudites mines de Reras. Oh. Tout juste s'il en reste un morceau intact. Il aurait mieux fait de rester à la maison bercer son jeune frère.
Bon, votre mémoire vieillit avec vous, Mère Oli. Gilles Stott n'a jamais eu de frère. Et c'est d'ailleurs en cela que la douleur de la veuve Stott doit être plus amère maintenant que sa cabane est tout à fait déserte. Ah, si elle veut regarder le ciel pour se consoler, elle trouvera entre le ciel et elle son vieux toit, ou pas encore le berceau vide de son enfant, devenu grand jeune homme et mort.
Mmh. Ah, oui. Pauvre mère. Et pour lui, c'est de sa faute. Pourquoi se faire mineur à Reras?
Ah, ça, je crois que ces infernales mines nous prennent un homme par escalade de cuivre qu'elles nous donnent.
Les mineurs sont des fous. Mmh. Pour vivre, le poisson ne doit pas sortir de l'eau. L'homme ne doit pas rentrer en terre.
Mais si son travail lui était nécessaire pour gagner sa fiancée,
la belle fiancée, pendant que, par amour pour elle, il se faisait écraser par un rocher, elle le trompait sans vergogne avec un de mes camarades. C'est en allant rejoindre son amant hier dans la forteresse de Munkholm, où nous sommes casernés, pour y célébrer sans doute la mort du fiancé, qu'elle s'est noyée. La barque a chaviré sur un écueil.
Pas possible.
Je le disais bien. Voilà où conduit l'amour.
Vous n'avez pas honte? Salir ainsi la mémoire des morts?
Que croyez-vous donc, les hippies, jacassières? La blanche colombe avait le bout des ailes sales.
Petit mal appris, vous parlez sur ce ton. Vous voilà bien, la soldatesse.
Adoteux.
Pierre Goudry.
Maudit vautour.
Infernal gardien des morts.
Père, sorcière. C'est aujourd'hui jour de sabbat, dépêchez-vous d'aller retrouver au balai. Vous disiez, mon brave, que cette misérable créature...
Nous sommes misérables parce que tu ne tires de nous que 30 escalins de taxes, alors qu'une carcasse d'homme, quand elle tombe entre tes griffes, t'en rapporte 40.
Silence, viens. En vérité, ces filles du diable sont comme leur chaudière. Parce qu'elles s'échauffent, il faut qu'elles chantent. Mais dites-moi, mon vaillant roi de l'épée, votre camarade dans cette gutte, telle la maîtresse, va sans doute se tuer de désespoir. l'avoir perdu.
Vieux mécréant.
Tu n'attends même plus qu'il soit mort maintenant.
Un vivant de moi, 40 escalades de plus pour toi.
Et quand bien même cela serait, notre gracieux et bien-aimé maître et roi Christian V, que Saint Hospice le bénisse, enrichit bien le trésor royal des chétives dépouilles des mineurs, hein?
C'est faire beaucoup d'honneur au roi que de comparer le trésor royal au coffre-fort de ton charnier et lui à toi, voisin spiagoudré.
Ton voisin? Dis plutôt ton hôte, car il se pourrait bien que tôt ou tard, mon cher concitoyen de la barque, je doive te prêter un de mes lits de pierre. Du reste, quand je parlais de ce soldat, c'était simplement histoire de voir se perpétuer l'usage du suicide dans les grandes et tragiques passions que ces dames ont coutume d'inspirer.
Eh bien, ton cadavre, gardien de cadavre, veux-tu en venir avec ta grimace aimable? Il ressemble si bien au dernier éclat de rire d'un pendu.
À merveille, mon vaillant. J'ai toujours pensé qu'il y avait plus de facultés spirituelles sous le casque du gendarme Turne qui vainquit le diable avec le sabre et la langue que sous la mitre de l'évêque Isleif. Il a fait l'histoire d'Islande ou sous le bonnet carré du professeur Schöning qui a décrit notre cathédrale.
Dans ce cas, vieux sac de cuir, si tu m'en crois, tu devrais te vendre au cabinet des curiosités du vice-roi, à Gargen. Je te jure qu'on y paye au poids de l'or les animaux rares. Ah, tu ne perdrais pas au change avec le charnier. Alors, que me veux-tu?
Quand les corps qu'on nous apporte ont été trouvés dans l'eau, nous sommes obligés de verser la moitié de la taxe aux pêcheurs qui les ramènent. Aussi, je vous serais obligé, illustre héritier du gendarme Turne, d'engager votre infortuné camarade à ne pas se noyer, mais à choisir plutôt un autre genre de mort. Dans le cas où, bien sûr, le désespoir le conduirait à tenter à ses jours. La chose devrait lui être indifférente et il ne voudrait pas faire tort tout de même au malheureux chrétien qui va donner de l'hospitalité à son cadavre.
Vous en êtes pour vos frais, charitable et hospitalier concierge. Mon camarade n'aura pas la satisfaction d'être reçu dans votre appétissante auberge. Croyez-vous qu'il ne s'est pas déjà consolé avec une autre valkyrie de la mort de celle-là? Pensiez-vous donc sérieusement qu'il resterait inconsolable? Dans ma barbe, il y a bien longtemps qu'il était là, de votre gutte.
Misérable! Allez donc les aimer après ça!
Je ne vaux rien!
Oh! C'est donc une répétition du sabbat ici! Le supplice de Belzébuth est bien effroyable s'il est condamné à entendre de pareils cœurs une fois par semaine!
Oui!
Où l'avez-vous trouvé? Sur la grève. Encore un noyé. Oglifiglap. Oglifiglap, emmène-le dans la seconde salle et déshabille-le. Quand ce sera fait, reviens me prévenir.
Bien, bien.
À votre avis, homme ou femme?
Homme. Vous avez vu sa taille?
Mais de toute façon, nous allons être fixés tout de suite. Voilà le lapon qui revient.
Maître, c'est un officier.
Allons, bon. Venez avec moi, mon beau gentilhomme. Vous le connaissez peut-être. Dans quel état est-il?
Le visage est défiguré. Les membres ensanglantés. Mais quel uniforme, maître! Il y a longtemps que je n'avais touché d'aussi beaux habits.
Saint-Bézébuth, c'est un officier de mon régiment. Ah, voyons, serait-ce le capitaine Bollard? De douleur d'avoir perdu son oncle? Ah, mais non, suis-je bête. Il hérite. Le baron Randmer, il a risqué hier sa terre au jeu. Bon, il la regagnera demain avec le château de son adversaire. Serait-ce le capitaine Lorry, dont le chien s'est noyé? Ou le trésorier Stonk, dont la femme est infidèle? Non, vraiment, je ne vois pas dans tout cela de motif pour se faire sauter la cervelle.
N'asperge-lui donc la figure, on ne voit rien avec tout ce sang.
Voilà.
Que se passe-t-il?
On vient de retrouver le cadavre d'un officier.
Impossible de savoir de qui il s'agit. Ce qui est sûr, c'est qu'il appartient au régiment des arquebusiers de Munkholm.
Laissez-moi passer, je veux le voir. Laissez-moi passer.
Je me demande bien qui, dans le régiment, aurait des motifs de se suicider.
Et qui te dit, soldat, qu'il s'est suicidé? Cet homme-là ne s'est pas plus suicidé, j'en réponds, que le toit de la cathédrale ne s'est incendié de lui-même.
La cathédrale? On vient de la recouvrir en cuivre. C'est ce misérable Andisland qui a mis le feu. Paraît-il pour faire travailler les mineurs, et parmi eux son protégé Gittstadt, dont le cadavre repose ici en ce moment.
Comment? Osez soutenir à moi, second arquebusier de la garnison de Munkholm, que cet homme-là ne s'est pas brûlé la cervelle?
Cet homme est mort, assassiné.
Écoutez donc le brillant oracle. Tes petits yeux gris ne voient pas plus clair que tes mains, sous les gros gants dont tu les couvres au milieu de l'été.
Soldat, prie ton saint patron que ces mains-là ne laissent pas un jour leur empreinte sur ton visage.
Ça, c'est trop fort. Sors donc. Je m'en vais te corriger, moi.
Il suffit. Où était-il exactement?
On l'a retrouvé au greffe d'Urstall.
Au greffe d'Urstall? Le capitaine Dispelsen a dû y débarquer ce matin, venant de Copenhague.
Mais le capitaine Dispelsen n'est toujours pas arrivé à Munkholm.
On dit que Andisland rôde sur ses plages.
Dans ce cas, il est possible que cet homme soit le capitaine Dispelsen, si An est le meurtrier. Car chacun sait que l'Islandais assassine d'une manière si diabolique que ses victimes ont souvent l'apparence de suicider.
Quel homme est donc cela?
C'est un géant.
C'est un nain.
Personne ne l'a donc vu?
Ceux qui le voient pour la première fois le voient aussi pour la dernière.
Chut. Il n'y a dit-on que trois personnes qui aient jamais échangé des paroles humaines avec lui. Ce sorcier de Spiagudry, la veuve Stadt, et... Mais il a eu malheureuse vie et malheureuse mort. Ce pauvre Gilles que vous voyez ici.
Maintenant, j'en suis sûr. C'est bien le capitaine Dispelsen. Je reconnais la chaîne d'acier que notre prisonnier, le vieux Schumacher, lui a donnée.
Vous êtes sûr que c'est le capitaine Dispelsen?
Sûr. Par les mérites de Saint-Bézébuth.
trouve-moi une barque, et vite. Je vais à Munkholm.
Mais, seigneur, et le général?
Tu lui mèneras les chevaux. J'irai le voir demain. Suis-je mon maître ou non? Allons, dépêche-toi.
Dans une demi-heure, consonne le couvre-feu. Sorcil remplacera Duckness. À la grosse herse, et Melvidius montera sur la plateforme de la grosse tour. À 7 heures, tirez le canon pour qu'on lève la chaîne du port. Le capitaine Dispolsen est en retard. Allumez le fanal pour nous signaler et qu'on lui prépare des rafraîchissements. Ah, j'oubliais. On marque 2 jours d'arrêt pour Torik Belfast, qui a été absent toute la journée. Capitaine Dispolsen.
Qui va là?
Oui. Paix, sûreté.
On n'entre pas. Vous avez le mot de passe?
Oui.
Est-ce que je vais vérifier? Si vous mentez par les mérites du Saint, mon patron, je vous ferai goûter l'eau du golfe, moi.
C'est bon. Passez. Ben, un instant, vous n'avez pas le droit de pénétrer dans une prison d'État avec des bijoux. Cette boucle-là. Ouais, sur votre chapeau. Mais tout l'air d'être en diamant. Le règlement prévoit que le roi et les membres de la famille du roi, l'évêque et les chefs de garnison sont seuls exceptés. Alors, vous n'avez aucune de ces qualités, n'est-ce pas?
Tiens, pêcheur! Prends cette boucle pour prix du voyage.
Merci, seigneur.
Envoie n'importe qui maintenant. Ils sont bien imprudents à la chancellerie. D'ici que le prisonnier un beau jour prenne la poudre d'escampette, il n'y a pas loin. Enfin, moi j'obéis, c'est tout.
Bonsoir, capitaine. Vous ne vous doutiez pas que vous faisiez attendre un homme qui n'a point la satisfaction de vous connaître. Mais notre connaissance sera bientôt chose faite. N'est-il pas vrai? Recevez tout d'abord en guise de bienvenue toutes mes condoléances pour votre retour dans ce vénérable château. Pour peu que j'y séjourne encore, je sens que je vais devenir gai comme ces chouettes qu'on cloue à la porte des donjons pour servir d'épouvantail. Et quand je retournerai à Copenhague pour les fêtes du mariage de ma sœur, du diable si 4 dames sur 100 me reconnaissent. Et vous, qui venez de la ville, dites-moi, les nœuds de ruban rose au bas du juste au corps sont-ils toujours de mise? A-t-on traduit quelques romans de cette française, la demoiselle Scudéry? Je lis en ce moment la Clélie. Oui, c'est mon code de galanterie, maintenant que je soupire loin de tant de beaux yeux, car, tout beau qu'ils sont, les yeux de notre jeune prisonnière, vous savez de qui je veux parler, ne me disent jamais rien. Sans les ordres de mon père. Non, il faut vous dire, oh, tout à fait entre nous, que mon père m'a chargé, que cela reste entre nous, de... Enfin, vous me comprenez, auprès de la fille de Schumacher. Ce n'est pas qu'elle soit laide, mais c'est peine perdue que d'essayer. Cette jolie statue n'est pas une femme, elle pleure toujours et ne me regarde jamais.
Vous dites qu'on vous a chargé de séduire la fille de Schumacher?
Fille, quel vilain mot. Enfin, séduire... Soit, si c'est ainsi que cela s'appelle à Copenhague, mais j'en défierais le diable. Avant-hier, étant de garde, je mis exprès pour elle une superbe fraise française qui m'était envoyée de Paris même. Croirez-vous qu'elle n'a pas seulement levé les yeux sur moi, quoique j'ai traversé 3 ou 4 fois son appartement, faisant sonner mes éperons neufs, dont la molette est plus large qu'un ducat de Lombardie.
Dieu, Dieu, cela me confond.
N'est-ce pas? Pas la moindre attention à moi. Voulez-vous vous rafraîchir, dit Spolsen?
Je ne suis pas le capitaine Dispolsen.
Comment? Et qui donc êtes-vous pour oser vous introduire ici à cette heure?
Voici mon ordre. Je veux voir le comte Griffenfeld. Enfin, je veux dire, votre prisonnier.
Il n'y a plus de comte. Ici, son nom est Schumacher. Enfin, ce papier est en règle. Il porte la signature du vice-chancelier Grumont de Knud. C'est le frère du vieux général Leving de Knud qui commande à Drontheim. Et vous saurez tout quand je vous aurai dit que le général a élevé mon futur beau-frère, ordinaire Guldenlöck.
Merci de vos détails de famille. Ne pensez-vous pas que vous m'en avez assez raconté?
Je ne peux pas dire qu'il ait tort, l'impertinent personnage. Soldat, conduisez cet étranger à Schumacher. Ne grondez pas si j'ai décroché votre luminaire à 3 becs et à 1 mèche. Je n'étais pas fâché d'examiner une pièce qui date sans doute de Sciol le païen ou de Avar le pourfendu. Et d'ailleurs, on ne peut plus suspendre aujourd'hui au plafond que des lustres de cristal.
Maître.
Excellence, il n'est plus à Drontheim.
Quoi, il y était donc? Il est parti sans voir son général, sans embrasser son vieil ami. Et depuis quand?
Il est arrivé ce soir et reparti. Ce soir?
Ce soir? Ce soir, mais où s'est-il arrêté? Et où est-il allé?
Nous passions devant le Splatgest quand une rumeur a attiré son attention. Il est entré dans la morgue et presque aussitôt, il s'est embarqué pour Munkholm.
Ah, je le croyais aux antipodes.
Mais que va-t-il faire dans ce château? Et qu'allait-il faire au Splatgeist? Enfin, voilà bien mon chevalier errant. Voilà bien la manière dont j'ai éduqué. J'ai voulu qu'il soit libre, en dépit de son rang. À quoi bon me plaindre de son indépendance?
Ah, on ne peut pas le dire esclave de l'étiquette.
Non, mais il l'est de ses caprices. Enfin, il va sans doute revenir. Songez à vous rafraîchir, Tourelle.
Dites-moi, avez-vous beaucoup couru à droite et à gauche?
Nous arrivons en droite ligne de Bergen, Excellence. Mon maître y avait été appelé par son père, sa sérénité, le vice-roi de Norvège.
Et pourquoi donc?
Pour ce que mon maître m'en a dit, il était question de mariage. Mon maître semblait triste. Il a décidé de vous rendre visite. À vous. Son second père, comme il vous nomme. Je dois voir le général Levin de Knud, a-t-il affirmé. Alors j'ai scellé les chevaux et nous sommes partis.
Brave petit. Mais Paul, ce mariage lui déplaît-il pour qu'il soit triste?
Je l'ignore. Mais on dit que sa sérénité l'exige.
L'exige? Pour que le vice-roi l'exige, il faut qu'ordinaire s'y refuse.
Je l'ignore, Excellence, mais il est triste.
Voilà encore qui va me mettre dans une situation embarrassante. S'il ne veut pas de la fille du grand chancelier, ce n'est pas moi qui irai contre sa volonté. J'encourrai plutôt la disgrâce du roi. À propos, ordinaire, sait-il que sa future belle-mère, la comtesse d'Alfeld, est ici incognito depuis hier, et que le comte y est attendu?
Je l'ignore, mon général.
Oh, il doit le savoir. Voilà pourquoi il se cache.